foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, en cette semaine de Noël, merci Jean-Jacques Rouchy de venir nous parler de votre foi, de votre engagement. Vous êtes prêtre de l'Église catholique, vous êtes même chanoine depuis 2012 avec des responsabilités dans l'interreligieux et des responsabilités à la fois en pastoral et dans l'enseignement.
L'enseignement, je n'y suis plus depuis 2016.
Oui, mais vous avez eu un parcours très
riche. J'ai eu un parcours, 36 ans d'enseignement.
Depuis votre naissance dans une famille chrétienne, avec les mouvements, cœur vaillant, et puis une école à Saint-Joseph, à Toulouse. Vous êtes bien Toulousain d'ici.
Frère des écoles chrétiennes.
Et en étant passé également en Égypte, ce qui a orienté un petit peu
après,
votre...
Après, j'ai fait la coopération, oui.
Avant, c'était puisque vous étiez depuis tout le temps appelé à être prêtre. Appelé à être prêtre de l'Église depuis tout petit. C'était pour vous comme un
disons
appel...
Depuis les premiers sacrements, quoi. Depuis le... Oui, entre 8, autour de 8-10 ans.
Avec cette question, mais les livres de la doctrine chrétienne sont en grec, donc ça vous a amené à faire un travail à l'université, une recherche.
Quand j'ai commencé à faire ma formation pour devenir prêtre, je me suis rendu compte que les évangiles étaient en grec, que la traduction en grec de la Bible était très importante, que toute la doctrine des premiers siècles était en grec.
Le latin ne suffisait plus.
J'avais fait du latin et donc, j'ai voulu faire un complément de formation avant de commencer ma théologie.
La recherche du savoir qui, lorsque vous serez en Égypte, vous amènera aller aussi à faire l'arabe.
Voilà,
en même temps. À la fois, vous avez lu les Pères de l'Église. Entre autres, vous vouliez faire sur Grégoire de Nice.
Oui,
un travail de réflexion.
Avant de faire la coopération en Égypte, qui m'a orienté plutôt vers l'intérêt pour l'islam et pour la langue arabe, j'avais prévu de rédiger mon mémoire de maîtrise, effectivement, sur un père grec qui s'appelle Grégoire de Nice, N-Y-2-S-E, à l'université du Mirail. Et puis j'ai obliqué, après dans la coopération... Au moment de faire la maîtrise de théologie, on a décidé avec les formateurs, avec l'évêque, de faire plutôt mon mémoire de maîtrise sur la comparaison entre la révélation coranique et la révélation biblique.
Monseigneur Coligny, vous a demandé de vous ouvrir.
C'était archevêque de Toulouse de 1976 à 1996 et qui était né à Tunis.
Donc on voit ici un parcours, j'allais dire sans faute, comme
c'est beaucoup dire.
Avec plein d'humour, non, mais aussi plein de réflexions sur ce que c'est que la science et puis le contact avec d'autres qui ne pensent pas comme vous.
Voilà, l'intérêt, effectivement, j'ai toujours été curieux de l'altérité.
Que ce soit au Mirail, que ce soit en Égypte, et puis alors après avec Bernard Rugeux, dans cet institut de sciences et de théologie de religion qui a été fondamental.
C'est une partie du travail de l'Institut catholique de Toulouse, pour s'intéresser précisément aux relations interreligieuses, aux réflexions théologiques, aux contacts aussi un petit peu. Et pendant 3 ans, j'ai été le coordinateur de cette petite institution.
De ces échanges avec des personnes qui ne partagent pas forcément nos convictions, qu'ils soient philosophes ou qu'ils soient historiens.
Et aussi un grand rôle qui nous est demandé pour les responsables des relations interreligieuses, c'est d'ouvrir les catholiques au regard sur les autres.
Émission...
Il y a le contact avec les autres, entre guillemets, donc en l'occurrence surtout les musulmans, ceux que l'on peut rencontrer, ceux qui acceptent d'entrer dans une relation de connaissance et d'amitié et d'action commune aussi pour le bien commun. Il y a également dans ma responsabilité la participation à un conseil qui est à la préfecture, où je représente l'Église catholique, dans la charte de la fraternité qui existe depuis 2015, après l'attentat à l'école juive. et déjà depuis l'affaire Mera, et à la mairie de Toulouse a aussi un conseil Toulouse Fraternité Laïcité qui est destiné à aider les employés municipaux à faire face à des questions qui se posent à eux dans des problématiques religieuses, pour ce soit aussi pour le monde de la santé. Voilà, et donc je participe à ce conseil pour représenter l'Église avec d'autres représentants des religions, mais aussi à la mairie avec des représentants des convictionnels, donc il y a les différentes obédiences maçonniques, des associations de défense, en particulier des communautés noires, hein, des représentants aussi des autres corps constitués, la justice, voilà, pour justement donner un avis consultatif, et c'est le conseil municipal au grand complet et unanime qui a demandé qu'il y ait cette instance où nous apportons un avis sur des choses aussi diverses que l'attitude qu'il faut adopter lorsque l'on demande une nourriture halal dans les cantines. Est-ce que des élus de la République ont le droit, avec l'écharpe tricolore, d'aller communier lorsqu'ils sont à un culte catholique? Est-ce qu'un employé municipal a le droit d'arborer des tatouages religieux au moment où il est en train d'accueillir le public? Que faut-il faire lorsque un groupe demande la mise à disposition d'une salle municipale pour une activité culturelle et que lors de cette activité culturelle, il y a une heure de prière canonique et que le groupe fait une prière dans cette salle? Est-ce que c'est possible? À quelles conditions? Voilà, donc nous avons rédigé ensemble une charte de l'élu. Nous avons rédigé aussi une déclaration qui rejoint d'ailleurs tout à fait ce qui a été la loi pour conforter les principes de la République, dite loi séparatisme, voilà,
on fait
signer à toute association qui demande soit des subventions municipales, soit la mise à disposition d'une salle, de signer une adhésion aux valeurs de la République, l'égalité homme-femme, etc. Voilà, donc la participation à ces conseils, c'est intéressant aussi parce que là, c'est une interface avec la société civile et ça permet aussi des contacts extrêmement intéressants avec des personnes qui croient différemment ou des personnes qui ne croient pas du tout.
C'est la question de la laïcité telle qu'elle se conjugue différemment selon les appartenances convictionnelles des uns et des autres. Or, au lieu d'être un chiffon rouge qui va opposer les uns et les autres, ce terme de laïcité, qui est un pilier, un principe républicain,
et
vous amène à un dialogue.
Qui est tout à fait d'abord un principe évangélique, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César.
Et ce n'est pas négociable, ou au contraire, ça permet justement de mieux se connaître, peut-être.
Nous avons le 9 décembre, chaque année, il y a une commémoration de la loi de 1905, puisqu'elle a été promulguée le 9 décembre. Et le 8 décembre, donc, il y a eu deux jours, nous avons eu à l'espace des diversités, à la rue d'Aubuisson, une table ronde, précisément, sur la laïcité, où nous avons témoigné devant un certain nombre, en particulier de jeunes collégiens qui avaient travaillé sur le sujet, du fait que, bon, personnellement, j'ai insisté sur le fait que la laïcité, enfin, dans la Constitution, c'est un adjectif. Ce n'est pas un substantif, donc il n'y a pas de doctrine laïque. La laïcité est une pragmatique, c'est une manière de permettre à tous, croyants ou non croyants, de vivre ensemble et de concourir au bien commun, qui n'est pas faite pour... Ce n'est pas une religion contre les religions, mais des dispositions qui permettent justement, comme le dit la Constitution, de protéger la liberté de conscience et d'assurer la liberté de culte, avec la seule restriction de ne pas troubler l'ordre public et évidemment de ne pas contrevenir aux lois, en particulier en incitant à la violence. Voilà.
Mais comme prêtre, vous n'avez pas un devoir de réserve, ou bien vous pouvez exprimer vos pensées, ce que...
Dans quel contexte?
Alors justement, nous sommes la semaine où nous fêtons la nativité de Jésus, certains l'appellent le Seigneur, Jésus étant Dieu, mais ça peut choquer certaines personnes. Et puis le 26 décembre, ça sera la Sainte Famille. Donc ça, c'est, j'allais dire, êtes-vous peut-être divisé, schizophrène entre
Absolument
la conception?
Absolument pas. Je pense qu'il faut sortir de cette perspective d'opposition. La séparation, qui est d'ailleurs le principe de la création dans la Bible, n'est pas faite pour opposer, mais pour conjuguer.
Pas de tohu-bohu où tout se mélange.
Si on est semblable, on ne peut pas communiquer. Donc chacun a sa différence, et cette différence est faite pour enrichir et pour entrer justement dans, comme dans un concert où les différents instruments sont invités à faire une harmonie. Voilà. Alors, devoir de réserve, bon, en tant qu'humain, j'ai le devoir de respecter les convictions des autres. Et en tant qu'humain qui veut promouvoir un certain nombre de valeurs, j'ai l'ardente obligation de ne pas les prendre à rebousse-poil.
De ne pas voilà, provoquer, donc, c'est ça.
Donc de présenter, de dire la vérité lorsqu'elle peut être entendue et de façon à ce qu'elle soit reçue pour que je puisse communiquer ce que je crois être la vérité à l'autre et recevoir ce que l'autre croit qu'est la vérité, même si c'est différent de la mienne.
Voilà. Chacun est l'égal sans vouloir convaincre et convertir l'autre. C'est ça, c'est une expression.
La conversion est une attitude extrêmement intime et le seul protagoniste de la conversion, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu. Et là, la conscience humaine accueille ou pas cet appel, je suis croyant, je crois en Dieu, cet appel de Dieu à se convertir d'abord à la profondeur de la vérité de lui-même. Voilà, et si je suis croyant, je considère que... c'est pour ça que je suis tout à fait mal à l'aise lorsqu'on veut opposer les choses. Noël, ça fait partie du patrimoine culturel. L'Assomption, ça fait partie du patrimoine culturel. La laïcité, elle ne commence pas en 1789. La laïcité, elle a commencé avec Jésus qui dit qu'il n'est pas fait pour régler les héritages.
Merci pour ces précisions. Et vous avez parlé d'harmonie. Alors justement, vous nous avez apporté un hymne en l'honneur de Jésus, adoré par les mages. Mais cet hymne, il est en fait en araméen et il nous vient du Liban. Et c'est la deuxième partie de notre entretien que déjà vous allez introduire avec c'est la semaine pour l'unité des chrétiens.
C'est une partie de l'épître aux Éphésiens qui dit tout simplement que, c'est ma conviction, c'est celle des croyants, que l'humanité a perdu la tête au sens propre du terme, et que le Christ vient pour remettre la tête à sa place. C'est la notion de récapitulation. Caput en latin, ça veut dire tête. Donc il est le premier-né avant toute créature, bon, et il récapituler toutes choses dans le Christ.
Ça, c'est votre langage de foi que voilà. Peut-être et d'autres ne pourront pas
attention,
comprendre.
Attention, c'est pas seulement mon langage de foi, c'est ma conviction. C'est ma conviction, je dirais, anthropologique et cosmologique. Je pense que Dieu est le créateur et le mainteneur de la création et que sans lui, il manque quelque chose d'essentiel à l'humanité entière, au-delà de la foi et de la non-foi.
Alors nous allons écouter ce chant que vous allez après nous commenter.
Thank you.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, en cette semaine de Noël, avec Jean-Jacques Rouchy, vous êtes prêtre de l'Église catholique, vous êtes en fait chargé des relations avec les autres confessions chrétiennes et aussi avec des personnes d'autres convictions, comme vous nous l'avez dit tout de suite. Pour ceux qui prennent l'antenne en cours de route, vous êtes aussi un des animateurs, si on peut dire, du comité interconfessionnel. Et cette musique que nous venons d'écouter, elle a été proposée par des chrétiens d'Orient.
Tout à fait.
Des chrétiens du Liban.
Une invitation à venir adorer le Christ dans la crèche.
C'est ça, voilà. Par ces, pas seulement et l'image.
C'est une
les...
musique de type oriental, donc en particulier de l'église maronite.
Ce qui nous montre qu'il y a des sensibilités différentes et que l'unité des chrétiens qui va être célébrée la troisième semaine de janvier, c'est un défi, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Déjà à l'intérieur de la confession chrétienne, car il y a des susceptibilités entre par rapport à certains rites de l'Église catholique, par rapport aussi à certains dogmes qui ne sont pas toujours affirmés.
Oui, c'est surtout le poids de l'histoire. Hein. Le poids de l'histoire, en particulier la séparation progressive entre l'Orient et l'Occident de l'Église. Donc, il faut rappeler que l'Église est née en Orient, en Terre Sainte, et s'est beaucoup développée aussi jusqu'à ce qui est actuellement l'Afghanistan, dont l'Irak, l'Iran, toutes ces régions que nous pensons naturellement musulmanes depuis la création du monde, sont le lieu de naissance et de développement du christianisme, de la vie monastique, de la spiritualité, des hymnes, et une autre manière que les Occidentaux d'aborder la doctrine, beaucoup plus poétique, beaucoup plus, je dirais, qui fait davantage appel au sentiment, tout en étant évidemment extrêmement rationnel. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que les églises se sont développées, les contextes politiques sont devenus extrêmement différents entre l'Orient et l'Occident.
Le schisme grec.
La conquête islamique à partir du 7e siècle a coupé les relations entre l'Orient et l'Occident pendant de nombreux siècles, même s'il y a eu des points de contact. Et donc les églises ont connu des développements parallèles, pas tellement sur le fond de la doctrine. Ça, sur le fond de la doctrine, ça a été les premiers conciles, donc, qui se sont développés plutôt en Occident, plutôt dans une perspective de précision intellectuelle, de définition de notions qui sont très importantes pour les Occidentaux, puisqu'il s'agit tout simplement de dire comment le Christ est sauveur universel.
La nature du
Christ. Voilà, donc avec les définitions qu'on a en particulier dans le fameux credo de Nicée-Constantinople. Les églises d'Orient ont été séparées de fait, pas tellement sur des questions thématiques, même si ça a joué, mais plutôt parce qu'ils étaient dans l'Empire perse, qui était l'ennemi de l'Empire byzantin, et donc prendre les définitions de foi des Occidentaux, c'était d'une certaine manière être mal vu par le pouvoir politique qui régnait à ce moment-là en Occident.
C'est votre enseignement.
Voilà, se sont développés et parallèlement, donc le
arménien, copte et maroni sont autant
les
coptes, de nuances.
Les géorgiens,
mais en Occident, églises. Nous avons aussi les conflits avec
alors,
le Concile de Trente et puis les orthodoxes.
Plus tard. Le nord de l'Orient et l'Occident à partir en gros du 10e siècle, avec l'Empire byzantin et les États issus de l'ex-Empire romain, où progressivement il y a eu en très gros en Orient, l'Église a été soumise au pouvoir politique, elle l'est encore. Et en Occident, petit à petit, l'institution pontificale a pris une dimension politique extrêmement forte jusqu'à Innocent III, qu'elle a gardée plus ou moins selon l'évolution qu'ont eu les États. Et au XVIe siècle, la réforme a accentué avec le principe donc ius regio et ius religio, c'est-à-dire que les habitants devaient avoir la religion du prince. Donc on a eu des États luthériens, des États calvinistes, surtout à Genève. la France donc a évolué vers le catholicisme, un catholicisme d'État,
mais vous
qui
pourriez
a
en parler
une très
pendant...
grosse influence politique et qui a beaucoup joué dans la Révolution française.
Dites-nous
avec,
peut-être
voilà, le désir de se libérer de ce qui était, c'est vrai, une trop grande importance, un trop grand poids du catholicisme dans l'État.
Alors le comité interconfessionnel.
Alors le comité interconfessionnel rassemble,
voilà,
principalement donc les représentants d'églises chrétiennes présentes à Toulouse, c'est-à-dire surtout les PUF, dont l'Église protestante unie de France, avec aussi une très grande importance des évangéliques, dont certains chrétiens évangéliques sont dans l'Église protestante unie de France et d'autres n'y sont pas, donc nous avons des liens avec eux. Il y a les églises orthodoxes, alors qu'elles sont numériquement peu nombreuses, historiquement présentes depuis peu de temps, en particulier surtout depuis la Révolution russe. Donc il y a une paroisse russe et une paroisse roumaine. Et il y a aussi donc des orthodoxes qui sont venus après les révolutions arabes. Donc nous avons quelques orientaux, dont des musulmans orientaux, des musulmans iraniens, bon, après les musulmans maghrébins. Et au point de vue chrétien, donc, nous avons des réfugiés d'Irak, de Syrie, et aussi des Libanais donc, qui sont maronites.
La semaine pour l'unité, ça sera voilà. L'objet
donc,
de connaître ces personnes.
Nous essayons au comité de travailler avec ces différentes églises, mais aussi des mouvements qui sont alors interchrétiens, en particulier l'ACAT, Association des catholiques et des chrétiens pour l'abolition de la torture, oui. Les groupes bibliques écuméniques que vous représentez au comité, cher Benoît.
Il y a
aussi le chemin neuf et d'autres institutions qui ne sont pas des églises, mais qui sont très présentes dans l'action pour l'unité, pour promouvoir l'unité des chrétiens.
Alors, au-delà des controverses et des diversités, il y a
alors,
aussi la préparation de la scène, le vendredi saint.
Les controverses sont le... Ça me donne l'occasion de revenir un tout petit peu. Si vous voulez, il y a les convictions de foi, les doctrines... Et il y a la philosophie et la métaphysique. Donc la philosophie et la métaphysique nous réunissent quand même avec les athées et les agnostiques pour se poser les questions de l'origine de l'univers, du sens de la vie. Voilà, donc le cultuel et le culturel ont quand même partie liée. Et par rapport aux autres chrétiens, bon, les controverses sont prises en charge par les théologiens. Voilà. Il y a des groupes qui ont beaucoup progressé. Par exemple, la principale, le pierre d'achoppement avec les protestants a été résolu théologiquement en 1999 sur un accord de consensus différencié sur la justification par la foi. Donc, si vous voulez, les thèmes qui ont provoqué intellectuellement les divisions ont quand même beaucoup progressé vers l'unité. Alors, il reste des façons de prier, des façons de célébrer, des sensibilités qui sont le poids de l'histoire. Et nous essayons de nous comprendre les uns les autres, pas de chercher à dire, bon, nous, on a raison de dire à la messe comme ça et vous avez tort de faire ci. Tout le monde a tort et tout le monde a raison.
L'autorité et la transmission.
Chacun continue de prier de tout son cœur. Nous essayons de prier autant que possible les uns avec les autres, sans confondre, sans faire de syncrétisme, de mieux nous comprendre. Et nous pensons que l'unité se fera de l'intérieur, ne sera pas le fruit de stratégies d'OPA des uns sur les autres.
C'est pour ça que vous avez apporté, pour conclure, cette lettre de Paul aux Éphésiens, et on dit il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus et
voilà.
En Jésus, et c'est pour
c'est
la
lui
louange
qui
de
nous
gloire
réunit.
De sa grâce.
Voilà, l'unité se fera par le haut et par le fond.
Et c'est aussi ce que chantent certains chrétiens dans le Te Deum, fils éternel et bien-aimé, esprit de puissance et de paix, tu viens nous apporter cette lumière. Toi, Seigneur de gloire, et effectivement, on dit
de même que l'Esprit Saint fait l'unité de la Trinité, c'est lui qui fera l'unité des Églises.
Et c'est votre foi, c'est tout votre engagement et tout ce que vous nous apportez en cette semaine. Merci Jean-Jacques.
Merci
avec
à vous.
La prière aussi qui nous unit à nos frères juifs à travers les psaumes et à travers la lecture
Benoît
de la Bible.
Benoît XVI a aimé parler des juifs comme nos frères aînés dans la foi.
Très bien. Merci Jean-Jacques et à plus tard, et sans doute avec le Père Tanios qui viendra nous parler de cette semaine, plus précisément des manifestations qui auront lieu la troisième semaine de janvier. À bientôt et joyeux Noël.
Joyeux Noël à vous aussi.